le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le service protestant en ce jour de Noël. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Frédéric Rognon, quel est le sens du mot Noël ?
Ce sera peut-être l'un des sujets de conversation ce midi autour de la table familiale. Que veut dire Noël en effet ? Eh bien, voyez-vous, les linguistes ne sont pas tous d'accord sur l'étymologie du mot Noël. Certains le font dériver du latin natalis, qui signifie naissance, et d'autres le décomposent en deux racines, nox el, la nuit de Dieu. Nox, c'est la nuit en latin, et el, c'est Dieu en hébreu. Comme dans Daniel, Joël, Raphaël, Samuel, Emmanuel, Nathanaël, tous ces prénoms qui ont un rapport avec Dieu, mais aussi Noël, qui est également un prénom, masculin ou féminin d'ailleurs. Noël est donc la nuit de la naissance du Fils de Dieu, on pourrait même dire la nuit de la naissance de Dieu. Nous qui sommes ce matin à l'écoute de l'émission protestante sur France Culture, nous le savons bien, Noël est la nuit de la naissance de Dieu. Mais il faudrait peut-être le rappeler à ceux qui l'ont oublié, et peut-être y en aura-t-il tout à l'heure autour de votre table familiale. Le rappeler à ceux qui ont fait de Noël bien autre chose, qui en ont fait quelque chose où Dieu n'a plus sa place. Non, Noël, c'est vraiment la nuit de la naissance de Dieu.
Vous nous conduisez maintenant dans un temps de méditation sur ce texte que vous lisez dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 5 à 17 et 26 à 33.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils » et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ce texte de l'évangile de Luc, qui annonce la naissance de Jésus, nous conduit à nous poser la question : comment traduire le sens de Noël dans notre vie d'aujourd'hui ? Comment la nuit de la naissance de Dieu peut-elle nous parler, peut-elle nous toucher, peut-elle nous faire vivre concrètement aujourd'hui ? Il me semble qu'il y a trois façons de vivre Noël concrètement aujourd'hui. Ces trois façons, ce sont tout d'abord l'inattendu de Noël, deuxièmement la conversion de Noël et enfin l'espérance de Noël. Vivre Noël, c'est tout d'abord accueillir l'inattendu, accueillir la surprise, ce à quoi l'on ne s'attend pas. Cela peut paraître curieux de dire que Noël, c'est l'inattendu, alors qu'on sait très bien que cela tombe chaque année à la même date et qu'on s'y prépare et qu'on sait assez exactement ce qui va se passer pendant cette fête. Et pourtant, Noël, c'est l'inattendu. Vivre Noël, c'est accueillir l'inattendu. Le premier Noël était vraiment inattendu. Essayons de nous replonger dans le contexte de l'époque. Bien sûr, le peuple était dans l'attente du Messie que Dieu avait promis d'envoyer aux hommes. Mais on n'imaginait pas qu'il allait venir comme cela, dans la pauvreté, dans la précarité d'une crèche, et s'adresser en priorité à des bergers. Pour le roi des rois, quel étrange endroit, comme dit une chanson. Les Juifs pensaient que ce Messie allait chasser les Romains qui occupaient le pays. On n'imaginait pas qu'il allait se laisser clouer sur une croix entre deux brigands. Pour le Fils de Dieu, quel étrange lieu, comme dit toujours la même chanson. Jésus est en complet décalage par rapport aux attentes du peuple. Il vient là où on ne l'attend pas. Il est l'inattendu par excellence. Voyons encore d'un peu plus près les circonstances de sa naissance. Et comparons sa naissance avec celle de Jean-Baptiste. Les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, étaient âgés mais n'avaient pas d'enfants, et ils priaient avec ferveur pour en avoir un. Et l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » La naissance de Jean-Baptiste est donc le fruit de l'exaucement d'une prière. Marie, à l'inverse, est jeune. Elle n'est pas encore mariée, elle est fiancée à Joseph. La vie s'ouvre devant elle. Elle ne songe sans doute pas encore à avoir un enfant. Et l'ange Gabriel, encore lui, vient lui annoncer qu'elle en aura un alors qu'elle est encore vierge. Il lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Par conséquent, entre l'annonce faite à Zacharie et l'annonce faite à Marie, nous avons deux expressions très proches, presque identiques. « Ne crains point Zacharie, ne crains point Marie. » ta femme t'enfantera un fils, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jean, tu lui donneras le nom de Jésus. Et lorsque nous sommes ainsi en présence d'expressions semblables, presque identiques, ce sont les quelques différences entre elles qui deviennent significatives. Or, nous avons d'un côté avec Zacharie « Ta prière a été exaucée » et de l'autre avec Marie « Tu as trouvé grâce devant Dieu ». La naissance de Jean-Baptiste est le fruit de l'exaucement d'une prière. La naissance de Jésus est le fruit d'une pure grâce de Dieu. Un don gratuit. Un cadeau que Marie n'attendait pas, que Marie n'espérait pas, qu'elle n'osait même pas imaginer. Les circonstances de la naissance de Jean-Baptiste relèvent de la logique de l'ancienne alliance, l'exaucement d'une prière. Les circonstances de la naissance de Jésus relèvent d'un message radicalement neuf, la pure grâce de Dieu. Jésus vient montrer aux hommes le visage d'un Dieu d'amour et de grâce. Et cette grâce, par définition, survient là où on ne l'attend pas. Dans notre célébration de Noël et dans les jours qui viennent, Dieu ne sera peut-être pas dans tout ce qui est prévu, bien huilé, bien ritualisé. Nous le rencontrerons plutôt dans l'imprévu, dans l'inattendu, dans la surprise d'un regard, d'un sourire, d'une rencontre, d'une réconciliation, d'une joie nouvelle, jamais connue jusqu'alors, dans la surprise d'un moment de grâce. Non, chers amis, Dieu n'est pas le Père Noël, à qui on passe commande, et qui nous livre ce que nous lui avons commandé. Dieu nous surprend parce qu'il surgit dans l'imprévu, et il surgit dans l'imprévu parce qu'il nous précède, parce qu'il est déjà là où nous allons, là où nous marchons. Le cadeau qu'il nous fait est le plus inattendu des cadeaux. La vie éternelle, la vie en abondance, la vie avec Dieu. Première façon donc de vivre Noël concrètement aujourd'hui, accueillir l'inattendu. Et deuxième façon de vivre Noël, la conversion de Noël. Le mot conversion peut faire peur, peut faire fuir. Il signifie simplement un changement de regard sur le monde, sur les autres et sur soi-même. Un changement de regard qui conduit à changer de comportement au quotidien. Après les bergers, voici les mages. Après les plus pauvres, les plus riches. Qui sont ces personnages que Matthieu met en scène là où Luc place des bergers? Qui sont ces personnages mystérieux qui ouvrent l'évangile pour en disparaître presque aussitôt? La Bible nous dit peu de choses. Guidés par une étoile, les mages viennent d'Orient à Jérusalem pour voir le roi des Juifs qui vient de naître. Alerté, le roi Hérode s'informe auprès des autorités religieuses et à partir de la prophétie du prophète Michée, il envoie les mages à Bethléem. Ils y trouvent l'enfant avec Marie, ils se prosternent et lui offrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis ils regagnent leur pays par un autre chemin. Le texte nous dit donc que les mages sont venus à Jérusalem guidés par une étoile. Ce n'est donc pas l'Écriture sainte qui les a conduits, mais bien la pratique païenne de l'astrologie. Le texte nous dit ensuite qu'une fois à Jérusalem, c'est bien l'Écriture, c'est la Bible, plus précisément la prophétie de Michée, qui va les réorienter vers Bethléem. Les voilà réorientés par l'Écriture. Au milieu de leur pratique païenne, le passage par la Bible, le détour par la Bible, sera un guide décisif. Mais ce que dit aussi le texte, c'est que les spécialistes de l'Écriture, les sacrificateurs et les scribes, les exégètes et les théologiens de l'époque, eux connaissaient la prophétie, mais eux, ils ne bougent pas. Ils restent à Jérusalem, confortablement installés dans leurs convictions, dans leur érudition et dans leurs rites. Ils ne se mettent pas en route. Ce sont les astrologues païens qui se laissent réorienter par l'Écriture. Ce sont ceux qui viennent d'Orient qui se laissent réorienter, dans leurs pratiques païennes, qui se laissent réorienter dans leur vie. Et pourtant, les mages, après cet enseignement de l'Écriture, après cette réorientation, continuent à suivre l'étoile jusqu'à l'enfant, jusqu'à la crèche. Les mages restent syncrétistes, en quelque sorte. Ils mélangent l'astrologie et l'Écriture. Mais l'essentiel est à la fin. Les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. On comprend généralement cette phrase au sens premier. Ils ont pris un autre itinéraire au retour qu'à l'aller. Ils ont évité Jérusalem et le roi Hérode pour rentrer chez eux. Cependant, tout le début du texte nous autorise une seconde lecture, qui n'exclut pas la première d'ailleurs. L'expression « un autre chemin », souvent dans la Bible, désigne un changement de vie, une conversion. Le chemin, c'est une façon de vivre, de voir le monde, de vivre par la foi. Dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, les premiers chrétiens, avant d'être appelés chrétiens, sont appelés ceux du chemin. Si l'Écriture a réorienté la vie des astrologues païens que sont les mages, c'est la rencontre personnelle avec le Seigneur, avec le Fils de Dieu, à la crèche, qui change radicalement leur vie, en leur ouvrant un autre chemin. Alors finalement, qui sont les mages? Qui sont ces personnages venus du paganisme, réorientés dans leur vie par l'Écriture, et enfin transformés dans leur vie par une rencontre personnelle avec le Seigneur? Eh bien, les mages, c'est notre miroir. Les mages, c'est nous-mêmes, chacune et chacun d'entre nous, ou du moins ce à quoi nous sommes appelés, chacune et chacun d'entre nous. Nous cherchons le Seigneur, nous cherchons un sens à notre vie, nous cherchons une orientation dans le tumulte du monde. Mais nous venons au Seigneur tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, avec nos richesses et avec nos zones d'ombre. Avec nos richesses, avec notre générosité, avec nos cadeaux, avec notre argent et notre temps à donner généreusement, avec tout ce que nous consacrons au Seigneur, à la prière, au culte, à la louange, à notre prochain, au plus petit d'entre nous. Tout cela, c'est notre or, notre encens et notre myrrhe. Avec nos richesses. Mais aussi avec nos zones d'ombre. Avec notre paganisme, avec la confiance que nous mettons dans les puissances terrestres, dans le pouvoir et dans l'argent, parfois même dans les astres. Nous venons au Seigneur avec toute notre humanité, avec la grandeur de notre humanité et avec le poids de notre humanité. La Bible peut nous réorienter. La lecture et l'étude de la Bible peuvent nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur le Seigneur. Et finalement, la Bible nous conduit à une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui seul peut nous ouvrir un autre chemin, peut nous donner la force d'inaugurer une autre manière de vivre. Les mages, c'est notre miroir. Les mages, c'est nous-mêmes. Comme les mages, nous sommes en route. Nous sommes en marche. À travers le tumulte du monde, nous sommes à la recherche du Seigneur. Si nous nous laissons réorienter par l'Écriture, si nous nous laissons déplacer dans notre questionnement, si nous nous laissons bousculer dans nos réponses, si nous nous laissons recentrer sur Jésus, alors nous pourrons retourner vers nous-mêmes par un autre chemin. Deuxième façon donc de vivre Noël aujourd'hui, la conversion de notre regard, l'inauguration d'une autre façon de vivre. Enfin, troisième façon de fêter Noël, vivre dans l'espérance. C'est peut-être la plus percutante, et je dirais la plus subversive des façons de vivre Noël. À notre époque de morosité, de sinistrose, alors que la crise, les crises financières, économiques, sociales, internationales, environnementales, les crises semblent là et bien là et semblent là pour longtemps, vont peut-être même sans doute s'aggraver, vivre dans l'espérance. S'il y a un message de Noël, c'est bien celui-là. Car le désespoir de notre époque, de nos contemporains, était au moins aussi profond à l'époque de la naissance de Jésus chez ses contemporains. Occupation romaine, collaboration des autorités religieuses, souffrance du peuple, absence de perspective. Rappelons-nous qu'immédiatement après la naissance de Jésus, ses parents ont dû fuir avec lui en Égypte pour échapper au massacre des innocents. On se croirait aujourd'hui en Syrie, en RDC, ou précisément chez les chrétiens d'Égypte. C'est donc au milieu d'un profond désespoir que Jésus est venu porter l'espérance. Pour bien comprendre ce que signifie l'espérance de Noël, je crois qu'avec le théologien Jacques Ellul, il nous faut distinguer, et peut-être même opposer, espoir et espérance. L'espoir, c'est la confiance que l'on a quand on voit une issue possible à nos problèmes. L'espoir, c'est l'optimisme à vue humaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais l'espérance, et en particulier l'espérance de Noël, c'est ce qui surgit lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque toutes les issues sont bouchées, lorsque le pire est probable, ce qui est bien notre situation d'aujourd'hui, pour l'économie, pour nos enfants, pour notre planète. C'est alors que surgit l'espérance. L'espérance, c'est la confiance dans les promesses de Dieu qui nous a dit, en Jésus-Christ, que quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous séparer de son amour. Aucune puissance, aucune épreuve, aucune catastrophe, aucune maladie, pas même la mort, ne pourra nous éloigner de Dieu. Dieu, dans son amour infini et inconditionnel envers chacune et chacun de nous, sera là, présent, à nos côtés, à nous tenir par la main, à nous porter dans ses bras, quoi qu'il arrive. C'est cela, l'espérance de Noël. Je ne sais pas quel sera l'avenir de notre planète, de notre pays, de nos villes et de nos villages, de chacune de nos familles, mais je sais, je le crois fermement, je sais que cet avenir est en Jésus-Christ. S'il y a une chose à retenir du message de Noël, par-delà les festivités et les cadeaux et les repas et la joie des enfants et des adultes, s'il y a une chose à retenir pour aujourd'hui et pour demain, souvenons-nous de cela. Noël, c'est l'espérance que notre avenir est en Jésus-Christ. Nous n'avons donc rien à craindre. Noël, c'est l'espérance que notre avenir est en Jésus-Christ. Et ça, ça change tout.
Frédéric Rognon, vous nous conduisez maintenant dans un temps de prière auquel chacun peut s'associer.
Merci Seigneur pour Noël. Merci pour ce temps privilégié où nous nous souvenons de ta venue parmi nous, où nous cherchons ta présence dans notre vie. Qui que nous soyons en famille ou dans la solitude, où que nous soyons, dans notre maison, au volant de notre voiture, sur un lit d'hôpital ou dans une cellule de prison, où que nous en soyons avec toi, Seigneur, nous t'en prions. Ouvre nos cœurs à l'inattendu de Noël, rends-nous disponibles pour ce qui viendra aujourd'hui. Aide-nous à changer notre regard sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes. Ouvre dans notre vie un autre chemin et donne-nous l'espérance. Permets-nous de nous appuyer sur toi pour regarder l'avenir avec confiance. Chasse loin de nous toute peur, toute inquiétude, toute angoisse pour que nous puissions recevoir avec reconnaissance la bonne nouvelle de Noël dans notre cœur, dans notre vie. Amen.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Merci beaucoup Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, d'avoir été avec nous pour les méditations du premier dimanche de l'Avent et pour ce culte de Noël. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de Noël, fête de la naissance de Jésus, que la joie et l'espérance habitent en vos cœurs. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Philippe Mercher pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec la messe de Noël. Bonne journée à vous sur France Culture.
Berger, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert. Oh, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloire. s'insister. Exercice.